BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens, numéro de rentrée. Tous nos invités autour de la table sont guirés, sont bronzés, ils sont contents d'être là, de démarrer une nouvelle saison ici à Bruxelles et puis aussi une nouvelle saison de participation à 500 millions d'Européens. Merci à vous d'être là, merci pour votre fidélité. On va revenir sur le cas Apple. Apple qui s'est pris une amende record de 13 milliards d'euros de la part de la Commission européenne. Ce cas Apple va-t-il faire sauter le verrou de l'harmonisation fiscale ? Parce qu'on avait le sentiment que l'Union européenne, que la Commission européenne était relativement impuissante en matière d'harmonisation fiscale, parce que vous savez, il y a la règle de l'unanimité, on ne peut pas prendre de décision à moins que tout le monde autour de la table soit d'accord. Et là, du coup, Madame Vestager, la commissaire européenne en charge de la concurrence, elle a utilisé l'outil de la concurrence, l'outil des aides d'État illégales pour dire à l'Irlande que les 13 milliards d'euros de manque à gagner fiscal demandé, pas demandé justement à Apple, eh bien c'était une aide d'État et que c'était illégal. Bonjour, Pervenche Berès.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Eurodéputée socialiste, est-ce que selon vous le cas Apple va faire sauter le verrou de l'harmonisation fiscale en Europe ?
En tout cas, c'est une très bonne arme.
C'est une bonne arme.
C'est une bonne arme.
Ingeborg Grässle, bonjour.
Bonjour.
Eurodéputée allemande de la CDU, présidente de la COCOBU au Parlement européen. C'est la commission du contrôle budgétaire, la très redoutée commission du contrôle budgétaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va faire sauter un verrou de l'harmonisation fiscale en Europe, ce cas Apple ?
Ce serait trop beau pour être vrai. Moi, je n'y crois pas. Ils vont inventer toutes sortes de raisons pour ne plus bouger.
Ils, c'est qui ?
C'est les ministres de Finances.
Oui.
Je crois qu'ils vont faire clair que c'est un cas Apple à part, que c'est le droit de la concurrence qui doit y appliquer et c'est pas une question de généraliser la compétence de l'Europe pour en matière de taxes.
Les ministres des Finances qui, au moment où nous nous parlons ce week-end, sont en train de s'interroger. Il y a une réunion de l'ECOFIN. Ils se posent cette question: comment mieux coordonner les réglementations fiscales des différents États européens pour rendre le vieux continent attractif aux yeux des grands groupes internationaux. Bonjour Olivier Bailly.
Bonjour.
Chef de cabinet de Pierre Moscovici à la Commission européenne, un habitué de cette émission. Alors votre chef Pierre Moscovici, il a dit, après ce cas, il est en charge des affaires économiques, il est en charge également des questions de fiscalité, et il a dit que l'ère de l'évitement fiscal à grande échelle était terminée après ce cas Apple. Est-ce que c'est vrai ?
Le cas lance un message très fort aux États membres qui essayent de donner des avantages fiscaux indus à certaines entreprises, mais aussi aux entreprises qui essayent de s'installer dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse.
Rassurez-moi, c'est pas l'ère des multinationales en Europe qui est terminée.
C'est l'ère des avantages indus pour certains et du détournement fiscal pour d'autres. Donc c'est un message très fort, il faut en profiter, continuer à pousser.
Bonjour Charles de Marcy.
Bonjour Yann Anthony.
Directeur de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles, tout bronzé, vous êtes en forme, vous avez passé de bonnes vacances.
Oui, en pleine forme.
Prêt pour une saison de 500 millions d'Européens ?
Oui, qui sera, j'imagine, bien musclé.
Oui, bien musclé, avec la présidentielle française, on va largement y revenir. Entre autres, on va en parler d'un point de vue européen. Oui ou non, le cas Apple va-t-il faire sauter le verrou de l'harmonisation fiscale en Europe ?
Il faut le souhaiter. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'effets boomerang. Et on voit que les Irlandais ont déjà contesté la prise de position de la Commission. On voit qu'il y a des menaces qui sont faites aussi par nos partenaires américains, par les grandes entreprises. Évidemment, ça aura un coût. Donc, plus d'harmonisation, pourquoi pas. Il y a d'autres biais, en fait, que juste la fiscalité. On le voit avec la concurrence, c'était un premier outil, ou la transparence, qui en est un autre. Et donc, il faut regarder ça avec, à mon avis, un peu plus de recul.
Le cas Apple et ses conséquences en termes de fiscalité en Europe. Demandez le programme de 500 millions d'Européens avec nos invités pour réagir. Hashtag 500ME. Alors, Olivier Bailly, vous n'allez pas échapper à cette question. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que honnêtement, c'est Margrethe Vestager, une Danoise, celle qui, dit-on, a inspiré la série Borgen. C'est elle qui détient le portefeuille de la concurrence. C'est elle, la gendarmette, en clair, à Bruxelles. Et c'est elle qui est allée dire aux Irlandais qu'en termes de fiscalité, ils ne faisaient pas le job. Elle est en charge de la concurrence. Vous êtes en charge, avec Pierre Moscovici, de la fiscalité. Pourquoi c'est pas vous qui le faites ?
Mais parce qu'elle est en charge de la concurrence et que la décision qu'elle a prise, c'est justement une décision de concurrence. L'avantage fiscal, c'est-à-dire le taux d'imposition que les autorités irlandaises ont offert à la société Apple, et seulement à la société Apple, pendant de nombreuses années, était tellement bas, tellement proche de zéro, 0,005%.
C'est un chiffre qui est contesté par les Irlandais.
C'est pour ça que je vous défends celui de la commission que je représente ici. Ce chiffre est tellement insignifiant qu'il revient en fait à octroyer à Apple une aide d'État, c'est-à-dire une prime pour qu'elle s'installe effectivement en Irlande et contourne complètement l'impôt qui aurait dû être payé dans tous les autres États européens, ce qui explique cette somme de 13 milliards.
Mais Ingeborg Grässle, à partir du moment où les Irlandais se disent, voilà, nous, c'est comme ça qu'on veut créer de l'emploi dans notre pays. Pascal Donohoe, c'est le ministre de la Dépense publique en Irlande, il a dit que les conséquences de cette décision allaient remettre en question la façon dont on, en Irlande, fait de la création d'emplois et du business. Est-ce que c'est à la Commission européenne de dire aux Irlandais quel taux ils doivent pratiquer en termes de fiscalité et d'impôt sur les sociétés ?
Bien sûr, parce que ça, c'est un acte de désolidarisation de toute l'Europe. C'est d'offrir à une multinationale ce genre de conditions et avec ce genre de conditions, l'accès au marché intérieur.
À travers le rescrit fiscal.
Je crois que c'était vraiment le temps que la Commission européenne y agisse. Et ce que je me demande, c'est que ce tax ruling date de l'année 2007. Pourquoi ça durait si longtemps pour que la Commission réagisse?
Olivier Bailly, à côté de vous, boit du petit lait. Hein. Il vous regarde, il dit, c'est Ingeborg Grässle, parle d'or.
Il faut parler de Starbucks aux Pays-Bas, il faut parler d'Amazon à Luxembourg, il faut parler de quelques tax rules dans d'autres pays aussi. Je crois que l'Irlande, qui a profité de notre solidarité pendant la crise financière, les pays d'Europe, les pays de la zone euro ont aidé l'Irlande. Et en même temps, l'Irlande ne veut pas abandonner cette espèce de taxes zéro pour de grandes entreprises qui en ont fait beaucoup, beaucoup de profits en Europe. C'est un scandale.
D'accord. En même temps, Pervenche Berès, elle est danoise. Margrethe Vestager, donc elle vient d'un pays avec une fiscalité élevée, un peu comme la France. D'ailleurs, je crois que la France dispute. Maintenant, c'est en train de changer. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, justement, que ce soit une Danoise qui soit aux commandes de la concurrence et qui, aille tester les compétences de la Commission européenne et là, en termes de fiscalité?
Comme un excellent journaliste, vous me prenez à contre-pied, puisque vous allez m'obliger à défendre et à dire du bien d'une commissaire libérale qui applique de façon cohérente le principe d'une concurrence libre et non faussée. Mais il se trouve que, comme social-démocrate cohérente, je pense que là où la loi de la concurrence peut être utile, il faut s'en servir. Et c'est exactement la démonstration que fait Margaret Vestager. Vous savez, moi, j'ai présidé la Commission économique et monétaire pendant la crise. Au moment où le commissaire en charge des marchés financiers dans la commission Barroso était M. Charlie McCreevy, ancien ministre des Finances irlandais en charge des marchés financiers. Et je me souviens d'un jour, il venait devant la commission et où il s'était plaint de cette France, pays ringard, plein d'aides d'État pour des entreprises non performantes. Et je lui avais dit à l'époque, ça l'avait énormément choqué, que son pays était le roi des aides d'État parce que le régime fiscal qui était appliqué correspondait à une aide d'État. Et aujourd'hui, ce qu'a fait Margaret Vestager avec les services de la Commission qui se sont mobilisés dans un contexte où il y a une pression de la société civile, des citoyens qui ne comprennent pas sinon ce privilège d'entreprises comme Apple en Irlande, donne des résultats presque au-delà de nos espérances. Et quand j'ai dit tout à l'heure que c'était une arme, c'est parce que, au fond, on se rend compte depuis de nombreuses années, on essaie de dire à l'Irlande que leur taux d'impôt sur les sociétés à 12,5%, c'est pas raisonnable, que c'est du dumping fiscal, etc. Là, ils ont été pris à leur propre piège, parce qu'il ne s'agit pas de contester ce taux d'impôt, même s'il est sans doute trop bas, c'est de contester la façon dont ils ont voulu, à travers ces rescrits fiscaux, donner un privilège exorbitant à une entreprise qui, en réalité, fait tous ses profits grâce à des revenus, à des paiements qui sont organisés dans tous les autres pays de l'Union européenne.
En même temps, c'est leur système. Alors, Ingeborg Grässle parlait en gros de dumping.
C'est un système qui est incompatible avec la solidarité et la logique.
Mais les Irlandais, ils ont
intérieur.
Le sentiment que la Commission européenne va leur demander de se saborder en augmentant son taux d'impôt sur les sociétés.
Là, c'est un peu différent, parce qu'on est sur le cas d'un tax ruling spécifique pour une entreprise qui est critiquée, et la critique, c'est pas sur le 12,5% d'imposition sur les sociétés, même si l'assiette de l'imposition pourrait être un peu rapprochée ou harmonisée, qui est un grand mot, parce que l'écart est très,
c'est ça,
large.
Quand les Français disent « oui, mais nous, on a un taux de 34% », et les Irlandais disent « oui, mais enfin, on n'a pas tout à fait la même assiette non plus, donc votre
taux n'a rien
à
voir avec ».
C'est une concurrence fiscale qui est avérée. Mais pour ces grandes entreprises, il y a aussi un choix qui est d'aller dans des États. Donc, c'est le qui vont être plus accommodants ou qui vont avoir des propositions. Là, c'est juste que c'est sur une seule entreprise qui pose problème. S'il y avait eu un contexte qui était plus généralisé, là, il y aurait eu peut-être une approche qui est différente. Et puis, sur le taux, qui est un choix collectif des Irlandais, qui est un choix économique, rationnel, égoïste, mais rationnel, aujourd'hui, c'est pas celui-là qui est remis. Oui, opportuniste, mais ça représente 10% des employés au sein de l'Irlande et qui travaillent pour ces grands géants américains. Donc derrière, évidemment qu'il y a intérêt. Et d'ailleurs, le Parlement irlandais, mercredi de la semaine dernière, a déjà dit « Nous, on soutient le gouvernement parce que oui, ça nous pose un problème, même s'il faut avoir une réflexion qui soit plus large sur les questions de fiscalité. » Donc la Commission n'essaie pas de taper sur l'Irlande en tant que telle. Elle tape en fait sur un contexte très particulier, sur une entreprise, avec un accord qui était passé avec le gouvernement.
Olivier Bailly.
En fait, cette Commission, depuis qu'elle est rentrée en fonction avec le soutien d'une majorité au Parlement européen, s'est attaqué à cette question des rescrits fiscaux. Fiat, déjà, pour citer aussi une entreprise européenne, Starbucks au Luxembourg, aux Pays-Bas, maintenant Apple en Irlande. Nous avons deux autres enquêtes sur deux autres sociétés américaines, toutes les deux, au Luxembourg. On verra ce que ça donne. Le problème du rescrit fiscal n'est pas qu'il est illégal en soi. On peut donner un avantage à des entreprises pour attirer leur siège social dans un pays et créer de l'emploi. Ça, ce n'est pas illégal, ce n'est pas contestable. Il faut être transparent, et c'est les propositions que donc Pierre Moscovici, commissaire en charge de la fiscalité justement, a fait, rendre le rescrit fiscal transparent entre États membres, c'est-à-dire qu'un État membre peut demander à un autre pays « Attends, mais quel est l'avantage que toi tu donnes à cette entreprise pour qu'il soit venu chez toi ? J'aimerais en avoir une copie ». Grâce au soutien du Parlement, nous avons même pu aller plus loin et le rendre maintenant transparent. Ces rescrits fiscaux vont être mis en ligne, vont être rendus publics aux citoyens, qui pourraient aller vérifier quels sont effectivement les avantages fiscaux qui sont là. Donc, ce rescrit fiscal, ou ces deux, puisqu'ils sont deux, il faut pas les confondre pour le tout, c'est pas une métonymie, comme on appelle ça. Tous les rescrits fiscaux ne sont pas mauvais. Par contre, il faut qu'on les rende publics, transparents, et qu'on aille plus loin. Et le dernier point qu'il va falloir, sur lequel il va falloir aboutir dans les prochaines semaines, c'est rendre ce principe dont on parle depuis trop longtemps, y compris dans les G20, y compris entre Européens, les bénéfices doivent être taxés là où ils sont créés, dans le pays où ils sont créés. Le fait que Apple ait pu collecter tous ces bénéfices à travers l'Union, les transférer dans un seul pays, l'Irlande, pour que ce soit seulement l'Irlande qui le taxe à un taux minimal, ça pose un problème de revenus pour tous les autres pays.
L'assiette commune européenne, un serpent de mer ici à Bruxelles. On va y revenir avec Pierre Moscovici, votre patron, qui a dit que vous alliez faire de nouvelles propositions à l'automne en surfant notamment sur ce cas Apple qui pourrait faire sauter le verrou de l'harmonisation fiscale en Europe. On continue d'en discuter juste après un court message publicitaire en compagnie de nos invités, Père Vange Berès, Ingeborg Gressle, Olivier Bailly et Charles de Marcilly. A tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles en compagnie de Per Vange Berès, eurodéputée socialiste française, Ingeborg Gressle, eurodéputée CDU allemande, Olivier Bailly, chef de cabinet de Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques et de la fiscalité, puis l'union douanière, etc., etc., Charles de Marcy de la fondation Robert Schuman, véritable encyclopédie sur les questions européennes. On se pose cette question après le cas Apple, 13 milliards d'euros d'amende de la part de la Commission européenne. Alors, les autorités irlandaises introduisent un recours auprès de la Cour européenne de justice. Ils vont pas se laisser faire comme ça. Ils sont persuadés qu'ils vont pas payer, enfin en tout cas que Apple va pas payer autant. Mais la question que nous on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça permet de faire sauter le verrou de l'harmonisation fiscale européenne ? Parce que jusqu'ici, on se sentait impuissant. On avait le sentiment qu'il n'était pas possible d'avancer à cause de la règle de l'unanimité. Or là, là, la commission a pris un chemin de traverse et tape avec son bâton de gendarme sur la tête de l'Irlande grâce aux outils de la concurrence et des aides d'État illégales. Vous nous disiez tout à l'heure, juste avant la pause, Olivier Bailly, que la Commission européenne allait mettre sur la table de nouvelles propositions cet automne, en surfant notamment sur cette actualité. Au moment où on se parle, à Bratislava, les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne dans son ensemble sont en train de débattre de ces questions pour voir ce qu'il est possible de faire en commun en matière de fiscalité pour attirer les multinationales en Europe. Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table cet automne ?
Les taxes en Europe, c'est essentiellement deux choses. C'est l'assiette, c'est-à-dire la définition de quels sont les revenus qu'on peut taxer dans un pays ou dans les 28, et puis un taux. On a essayé par le passé d'harmoniser les taux. On a pu harmoniser, et encore par des fourchettes, que la TVA. Les impôts directs ne sont pas imposables dans les traités, donc on peut faire que les impôts indirects. Les États membres sont extrêmement réticents à ça, et même certains, comme l'Irlande ou d'autres, le Luxembourg ou les Pays-Bas ou Malte ou certains nouveaux pays qui ont adhéré depuis 2004, considèrent que un taux fiscal bas, c'est leur seul avantage ou un des principaux avantages qu'ils ont dans le marché intérieur pour survivre face aux autres. Donc on aura sans doute beaucoup de mal à harmoniser les taux. Le débat qui s'ouvre, ou qui s'est ouvert depuis quelques années, sur la transparence, sur les rescrits fiscaux, sur des cas de concurrence comme ça, va obliger les États membres, c'est ce qui se passe en ce moment à Bratislava, à quand même discuter, est-ce que c'est pas notre intérêt de les faire au moins converger. On verra si la Commission doit accompagner ce mouvement ou le pousser. On verra ça aussi avec le Parlement européen. Par contre, sur l'assiette, là, je crois qu'on a une réponse très importante à faire tous aux 23 millions d'entreprises et de PME qui travaillent dans le marché intérieur. Quand vous êtes une entreprise, je prends le cas d'entreprises françaises qui opèrent dans plusieurs États membres, Auchan, Carrefour, la Fnac, ils ont des taxes à payer dans tous les États membres, selon des taux différents. Mais en plus, selon le pays, on va leur dire que tel revenu est imposable, celui-ci ne l'est pas, celui-ci doit l'être en fonction de tel bénéfice, celui-ci en fonction de tel calcul. Le coût pour les entreprises européennes d'une assiette différente à travers le marché intérieur, c'est plus de 1000 milliards. 1000 milliards de comptabilité, 1000 milliards de coûts administratifs. Est-ce que dans la situation de croissance molle qu'on connaît aujourd'hui en Europe, on n'aurait pas intérêt à harmoniser l'assiette et à redonner aux entreprises ces 1000 milliards plutôt qu'ils les payent en comptabilité et en coûts administratifs stupides entre plusieurs pays? S'ils pouvaient les investir et créer des emplois, je crois qu'on rendrait un grand service à l'Europe.
Vous venez de poser une question intéressante, Olivier Bailly. On va la poser à Ingeborg Grässle.
Moi, je plaide pour qu'on utilise les instruments qu'on a. C'est pour ça que c'est une très bonne initiative que la Commission a prise avec le droit de la concurrence sur Apple. Je crois que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut faire à tout prix. Je suis toujours un peu sceptique quand au lieu de manger le gâteau devant nous sur l'assiette, quand on lorgne un gâteau qui n'est même pas encore fait. C'est-à-dire, quand on regarde la tentative d'harmoniser les taxes, c'était un échec après l'autre. Rien n'a marché parce que les États membres ont toujours considéré ça comme leur droit souverain. C'est pour ça que je suis plutôt sceptique, mais je crois que concentrant sur l'assiette, c'est une bonne initiative. Et je crois que si on peut y avoir un succès très lent, c'est le bon chemin à prendre, mais ce sera un chemin qui ne va pas être facile, parce qu'avec les pays de l'Est, je partage votre analyse à 100%, avec les pays de l'Est, il y aura beaucoup de résistance à attendre et des ministères des Finances.
Mm-hmm. Avant, je me reste.
Je crois que ce qu'a dit Olivier Bailly est juste, mais il y a beaucoup d'autres arguments qu'on peut ajouter pour dire que nous avons besoin de cette assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés. Parce que aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où il n'y a pas de transparence sur la réalité de l'impôt payé par les différentes entreprises. Et surtout, il y a des inégalités très grandes entre les entreprises et entre les États. Et tout ça nourrit un débat qui est parfaitement malsain. Par exemple, lorsque l'on regarde le taux d'imposition en France ou en Allemagne, pour prendre ces deux pays qui sont deux pays complémentaires dans une saine émulation, souvent, puisqu'on ne parle pas de la même chose en termes d'assiette, on affiche des taux mais qui ne recouvrent aucune réalité, qui ne disent rien sur la réalité que vivent les entreprises. Et pour ça aussi, je crois que c'est sain d'avoir des progrès en matière d'harmonisation de l'assiette. Ensuite, on est quand même dans une situation où il faut un peu parler gros sous. Hein. Et au-delà des 13 milliards dont on verra s'ils rentrent tous dans l'escarcelle de l'Irlande, qui a priori n'en veut pas, mais enfin il y a d'autres États membres qui pourraient revendiquer une partie de cette enveloppe.
Madame Vestager. Ça fait partie de la tactique d'ailleurs de Margrethe Vestager, parce que ça permet de montrer aux autres États européens le manque à gagner qu'ils ont ces rescrits fiscaux en Irlande.
Parlons gros sous. On est quand même dans un moment où les États membres doivent se préoccuper du niveau de leurs dépenses publiques et du niveau, en conséquence, de leurs recettes. Donc je ne vois pas comment est-ce que des États membres pourraient ne pas se servir de l'arme que constitue le cas Apple pour donner de la transparence. Et je suis certaine que ce débat sur l'assiette conduira de fait à des conditions plus normales de taux entre les États membres.
L'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, et donc on disait serpent de mer ici à Bruxelles, Charles de Marcy, la Commission qui va arriver, va remettre sur la table une proposition a priori moins ambitieuse que jusqu'ici, et surtout dire on touche à l'assiette mais surtout pas au taux.
Et là je trouve qu'il y a une formidable opportunité politique. Parce que le contexte, qu'il soit mondial, de cette récession non avérée ou très juste, de cette croissance molle, pour reprendre votre discussion tout à l'heure, de cette inflation à quasi zéro ou des broutilles, le fait que le chômage reste endémique dans une large partie des États membres, le fait que le cas Apple montre qu'on peut négocier avec un État si on est Apple, mais si on est une PME, une grosse PME allemande, c'est quelque chose qui est difficile, montre qu'au contraire, il faut que ça vienne par le haut. Et le haut, c'est des propositions qui viennent par Bruxelles et qu'elles soient évidemment soutenues par les États. Mais là, il y a un contexte politique, il y a un besoin justement de renforcer le marché intérieur, et je pense que c'est pas la même chose que ce qu'on avait les autres années. Et qu'il faudra surfer aussi sur sur cette opportunité de montrer, même en année électorale ou préélectorale, qu'on a quand même des besoins collectifs et qu'il faut aller plus loin finalement que ces réticences des États membres qui peuvent jouer individuellement. Et le deuxième point, c'est de faire attention, de ne pas mélanger le point avec le tax ruling et un accord fiscal, et puis derrière quelque chose qui est beaucoup plus large sur le marché intérieur et qui va bénéficier à tout le monde. Et là, en termes de communication, on voit très bien qu'il y a certains, notamment certains États, qui vont essayer de tout mélanger pour dire, regardez, on nous tape dessus et on nous enlève notre souveraineté. Non, c'est pas une question de souveraineté, c'est une question de partage plus large.
Dans le rapport de force, et ensuite on va se tourner vers Olivier Bailly, Ingeborg Grässle, mais dans le rapport de force, je parle à l'observateur Charles de Marcy, le Luxembourg, par rapport aux pays qui résistaient à toute forme d'harmonisation fiscale ou tout pas en avant jusqu'ici en faisant semblant de dire oui on est pour, mais qui résistaient quand même et qui traînaient des pieds. Mais le Luxembourg, maintenant on a un président de la Commission européenne qui est luxembourgeois, donc c'est difficile quand même pour eux de pas bouger. On a l'Irlande qui se retrouve avec le couteau un petit peu sous la gorge avec cette histoire d'Apple et puis l'ensemble des tax rulings. Quel est le rapport de force aujourd'hui en Europe?
Justement, c'est pour ça que je trouve que le contexte est différent. C'est transformer finalement au début ce qui était une crise. Commission arrive, boum, LuxLeaks, et finalement, il y a non, c'est une opportunité. On est bien placé pour savoir qu'il y a des failles, qu'il y a des limites qui sont moralement condamnables.
Quels sont les ardents défenseurs d'une harmonisation fiscale et quels sont ceux qui freinent, selon vous?
Aujourd'hui, c'est plus large que juste mettre des noms dans une boîte.
C'est toujours la difficulté, parce que
vous avez des États qui vont en bénéficier parce qu'ils estiment, par exemple, qu'ils n'ont pas un système industriel très productif. Donc pour eux, c'est un outil de concurrence, un outil de compétitivité,
l'Autriche,
de pouvoir s'appuyer finalement sur la concurrence. De même avec d'autres, sur d'autres paramètres, avec le dumping social ou de mettre des taux qui sont très bas. Donc vous utilisez ça en fait comme un outil pour attirer des entreprises. Donc c'est là où c'est difficile, c'est que tout le monde va y jouer. Quand vous regardez, juste dernier point, je finis là-dessus, quand vous avez le Brexit, quels sont les pays qui ont dit, mais nous, la City, les banquiers de la City, on les accueille avec bienveillance.
Où en sont ces projets de fiscalité commune entre la France et l'Allemagne, Ingeborg Grässle?
Moi, je crois que là, on ne fait pas beaucoup cadeau parce que la France a des taux les plus élevés en Europe et l'Allemagne a les taux les deuxièmes plus élevés. C'est-à-dire là, ça ne change pas beaucoup. Mais je crois que le but doit être que les autres qui collectent plus de taxes, ça doit être le but des propositions de la Commission. Mmh. Et c'est là que je crois que, désolé, mais vos propositions seront pour la poubelle parce qu'ils ne vont pas céder, ils vont voir ce qu'il y a derrière.
On va quand même essayer d'aider la Commission.
Il faut le faire, mais je crois que à la longue, ces propositions vont avoir le même sort que les propositions sur les taux. Et c'est quand je vois le drame autour de manque d'harmonisation de la fiscalité et même de la coopération des États membres, même en ce qui concerne la fraude pour le taxe, c'est quand même un grand drame. Mais il faut être réaliste, à mon avis, il faut utiliser le droit qu'on a et c'est ce que la Commission a fait.
Olivier Bailly, Ingeborg Grässle, elle est lucide quand elle parle de classement vertical ou en tout cas de mettre vos propositions déjà à la poubelle ou bien vous avez quand même vous caressé le fol espoir que non et que pour conclure cette discussion, le cas Apple va faire sauter le verrou de l'harmonisation fiscale en Europe.
Je crois que Mme Grässle rappelle un phénomène historique. Qui est effectivement la tentation des ministres des Finances de classer verticalement effectivement nos propositions parce qu'ils n'en veulent pas. C'est ce qu'on a dit, mais comme tous les autres aussi intervenants l'ont dit, le contexte a radicalement changé. Je crois que les États membres se rendent compte, et plus on va être transparent, plus on va les obliger à ouvrir les armoires de leurs rescrits fiscaux et de leurs règles comptables, plus ils vont se rendre compte que la concurrence fiscale entre eux est une course pour tout le monde vers le bas. Et comme l'a dit Pervenche Berès, une perte de recettes pour tout le monde. Et dans le contexte actuel, perte de recettes pour certains États membres. On ne maximise pas pour le marché intérieur les entreprises qui pourraient avoir des revenus. Et comme Mme Grässle l'a dit, il y a le nouvel élément de la zone euro. La solidarité financière, budgétaire des États membres de la zone euro ne peut plus accepter un dumping social des États membres qui partagent la même monnaie. Et ça, c'est des éléments nouveaux qui font réfléchir les États et c'est pour ça qu'ils en parlent en ce moment à Bratislava.
Voilà, Olivier Bailly, chef de cabinet de Pierre Moscovici, qui s'est bien défendu après une petite pique en début d'émission, en lui disant « Qu'est-ce que vous faites, vous, avec Pierre Moscovici ? On ne vous sent pas très actif sur le dossier. » Finalement, je pense que vous avez montré que vous travaillez quand même. Voilà, avec Pervenche Berès et Charles de Marcy qui reste avec nous. Ingeborg Grässle, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission juste après la pause, la revue de presse européenne et les coulisses de l'Europe avec Politico. Tiens, on va s'intéresser à Julian King. C'est qui Julian King ? Alors pour l'instant, c'est encore l'ambassadeur britannique à Paris, mais ça va être très prochainement, à condition que le Parlement européen donne son feu vert, le nouveau commissaire britannique à Bruxelles, parce que l'ancien, il a démissionné. Because Brexit. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Nogues.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours avec nos invités, Pervenche Berès, qui est invitée régulière de cette émission de 500 millions d'Européens. D'ailleurs, je me souviens de cette émission où on vous avait demandé, vous, on vous propose de devenir député à l'Assemblée nationale. Vous dites non, vous restez ici, au Parlement européen, à Bruxelles et Strasbourg. Il n'y en a pas beaucoup, des comme vous. Charles de Marcy, de la Fondation, Robert Schuman, Olivier Bailly, chef de cabinet de Pierre Moscovici et Maya Delabaume. Bonjour Maya.
Bonjour Yann.
De Politico, avec votre chronique, Les coulisses de l'Europe. Vous allez nous parler de Julian King. C'est qui Julian King ?
C'est le nouveau commissaire européen en charge des questions de sécurité.
Désigné.
Britannique.
Désigné.
Britannique.
Le futur nouveau commissaire
le
européen.
Le futur qui va être intronisé la semaine prochaine. Par les
intronisé. Et pourquoi vous nous parlez de lui ?
Parce qu'il va subir un entretien d'embauche qui est un exercice assez classique pour tous les commissaires, mais c'est intéressant parce que c'est lui.
Entretien d'embauche devant les eurodéputés.
Devant la Commission des libertés civiles
D'accord.
du Parlement.
Ensuite, dans la revue de presse européenne avec Eric Scholl de Courrier International, nous irons, tiens, en Irlande, on va parler d'Apple, mais vu d'Irlande. Ça, c'est ça qui est intéressant avec Courrier International. On va aller en Allemagne, on va aller en Espagne, on va aller aux Pays-Bas, parce que Eric Scholl, il parle toutes les langues officielles de l'Union européenne. Voilà, les coulisses de l'Europe et la revue de presse européenne. Demandez le programme de cette deuxième partie de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500 ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrés dans les coulisses de l'Europe.
Oui, nous pénétrons dans les coulisses de l'Europe avec Maya Delabaume. Parlez-nous de...
Et quelles coulisses
parlez-vous ? Parlez-nous de Julian King. Julian King, c'est l'ambassadeur, il était jusqu'ici ambassadeur du Royaume-Uni en France.
Oui, absolument. Et il va devenir, a priori, le nouveau commissaire en charge des questions de sécurité donc à la Commission européenne. Et il sera donc... On votera pour lui la semaine prochaine, officiellement. Et pourquoi est-ce qu'on
c'est
en parle à Politico ? Parce que c'est un nouveau portefeuille. Et c'est, il remplacera le commissaire, en fait, britannique qui était en charge des
questions financières. Jonathan Hill, qu'est-ce qu'ils vont lui demander en gros à Julian King?
Alors, c'est un vrai entretien d'embauche qui va durer 3 heures. Il y aura 45 questions orales et on va lui demander des choses, des questions très ouvertes comme qu'est-ce qui vous motive, comme quels aspects de vos qualifications personnelles et expériences vous serviront pour être commissaire, comment allez-vous promouvoir l'intérêt général, comment faire avancer l'agenda sur la sécurité, voilà. Bref, plein de questions qui font un peu penser à un concours.
Ça, c'est parce que vous avez eu accès aux questions des eurodéputés.
On a eu accès aux questions.
A priori, ils ne sont pas foulés quand même, parce que ça me paraît assez standard comme question pour un entretien d'embauche.
C'est les gentilles questions, ça.
Ça, ce sont les gentilles questions.
Voilà. Les questions un peu plus méchantes, ça va être sans doute sur... Ben, on sait que le Royaume-Uni, en fait, sur les questions de sécurité, a toujours privilégié beaucoup l'aspect... la préférence nationale, et notamment sur le terrorisme, et donc que les députés, je pense, vont surtout lui poser des questions, enfin, ceux les plus intelligents lui demanderont comment il fait justement pour promouvoir l'intérêt général, l'approche européenne sur le terrorisme.
Et le partage des informations.
Et le partage des informations qui est la clé de tout.
Comment ça se passe dans un cas comme ça, Pervenche Berès? Il y a effectivement les questions qu'on met, parce qu'il a répondu à des questions écrites.
Il a déjà répondu à des questions.
Voilà, et maintenant, c'est l'interrogatoire, c'est le grand oral. Vous préparez ça comment, Pervenche Berès, un grand oral?
C'est quelque chose sur lequel, je crois, le Parlement européen s'est beaucoup professionnalisé. Et vous vous souvenez, il y a eu parfois des cas où les commissaires ont dû changer de portefeuille, ou même l'État membre a dû changer la personne qui l'envoyait. Il y a ces questions écrites, mais on n'est pas très naïf. Hein. On sait très bien que quand on envoie les questions écrites, les futurs services de la Commission aident le futur commissaire à répondre. Mais ça permet
de cadrer. Vous permettez juste de poser la question à Olivier Bailly pour voir si c'est effectivement le cas. Olivier Bailly, chef de cabinet de Pierre Moscovici. Comment ça se passe, la rédaction des questions? C'est Pierre Moscovici lui-même qui avait dû répondre à ces questions.
Mais j'ai pas dit qu'il relit pas. Hein.
On les a faites ensemble, en fait.
Vous
Pierre Moscovici et moi-même, avant cette audition fameuse du 2 octobre 2014, je me souviens de la date, parce que c'était quand même effectivement 3 heures difficiles.
Et ça avait été compliqué pour lui.
C'était compliqué, parce que c'était des sujets sensibles et politiques, il y avait beaucoup de questions à poser. Mais effectivement, les questions écrites, c'est vrai qu'on les fait ensemble. Son équipe est là pour lui faire un projet. Et lui, il avait relu, rajouté, notamment les questions personnelles.
Et est-ce qu'il peut y avoir une sorte, Pervenche Berès, de procès en illégitimité fait à Jonathan Hill en disant écoute, ton prédécesseur, il a démissionné parce que vous voulez sortir de l'Union européenne, là on va te donner un strapontin, mais réellement...
Il y a eu débat sur est-ce que le Parlement européen devait accepter un nouveau candidat pour le Royaume-Uni au poste de commissaire, alors même que le Royaume-Uni n'a toujours pas déposé les outils qui actent la demande de retrait du peuple britannique, ce fameux article 50 du traité de l'Union. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre que la demande de retrait soit engagée? Il y a eu l'hypothèse d'un commissaire sans portefeuille. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est quand même que son prédécesseur, Jonathan Hill, qui était en charge des marchés financiers et donc d'une question très stratégique pour le Royaume-Uni, avait eu l'élégance de démissionner parce qu'il avait fait campagne pour le Brexit. Il considérait qu'il avait... d'une certaine manière échoué dans cette campagne. Et surtout, sans doute, a-t-il estimé que compte tenu du portefeuille qu'il avait, il allait être en total porte-à-faux pour la suite de la négociation. La question de la sécurité, je crois que c'est une, dans le moment où on est, c'est une intelligence de management, d'organisation de la part de Jean-Claude Juncker, parce qu'on voit bien que ça correspond vraiment à une priorité. À Bratislava, d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui va sortir du Conseil européen, mais on sait que cette question de sécurité, sous l'angle intérieur et sous l'angle extérieur, va être vraiment en haut des priorités.
Voilà, des outils supplémentaires, et puis les Britanniques qui n'ont pas encore trouvé les outils pour sortir de l'Union européenne. Nous, heureusement, en France, on a Castorama. Charles de Marseille.
C'est un exercice pas évident, parce que je me rappelle bien de celle de Pierre Moscovici, et vous recevez en fait des attaques sur les compétences techniques. Par exemple, il y avait les questions douanières qui étaient assez particulières, vous avez eu quelques questions dessus. Il y a des attaques qui sont plus personnelles sur le parcours, notamment sur la légitimité et sur l'engagement européen, par exemple. Un peu plus difficile aujourd'hui pour un Britannique sur cette notion d'engagement européen. Vous avez des questions aussi qui sont politiques clivantes sur la responsabilité que vous aviez quand vous étiez ministre, par exemple, c'est arrivé avec Pierre Moscovici. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui aujourd'hui faire des choses qui avaient été plus difficiles à faire lorsque vous étiez au sein d'un État membre. Donc on voit que ça joue sur différents leviers. Et puis il y a des petites questions gentilles qui permettent un peu de respirer aussi avec des députés amis. Donc c'est un exercice qui est particulier, qui est finalement très codifié, parce que les questions doivent être maximum 1 minute 30 ou 2 minutes, c'est assez court. Et on voit qu'il y a comme ça des grands passages. Et je trouve que à chaque fois que j'ai vu des commissaires qui s'en sortaient bien, c'est quand ils dépassaient en fait la démarche technique et qui parlaient un peu plus avec leur cœur et qui s'engageaient et qui avaient une sorte de talent oratoire. Et là, ils sont pas tous égaux. En tout cas, le futur commissaire ou en tout cas l'actuel ambassadeur, d'un point de vue oratoire, lui maîtrise quand même pas mal le principe de la rhétorique.
Après, et donc, je pense qu'il y a travail de préparation quand même. C'est pas totalement que spontané. Il a déjà rencontré des parlementaires.
Oui, c'est très cadré.
Déjà, c'est cadré. C'est pas totalement. Il va pas être piégé comme ça.
Mais ceux de la commission actuelle qui ont marqué un peu les esprits, c'est vraiment quand ils ont pu, soit c'était le cas de Jonathan Hill qui avait répondu en 3 ou 4 langues dès le départ et qui avait mis un climat alors qu'il allait être un peu attaqué justement. Parce que le Britannique qui s'occupait des services financiers, c'était assez symbolique et ça pouvait hérisser certains membres du Parlement européen. Donc le talent individuel est assez variable. Et on en a vu d'autres qui étaient pourtant anciens ministres ou premiers ministres de leurs États membres respectifs et qui sont littéralement plantés justement en pensant que c'était acquis.
Mais parce qu'ils n'avaient pas pris l'exercice au sérieux. Ils pensaient que leur notoriété nationale suffirait.
En tout cas, ce Julian King, clairement, là, il va passer son grand oral devant les eurodéputés de la Commission des libertés civiles la semaine prochaine pour un CDD, mais un CDD indéterminé. On ne sait pas trop, il pourrait se terminer plus tôt que prévu. Merci beaucoup, Maya de la Baume. Vous restez avec nous pour la revue de presse européenne avec Eric Scholl.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Mais bonjour Eric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Comment allez-vous ?
Excellemment bien.
Vous avez passé de bonnes vacances ?
Oui, je vous remercie.
Bon, ben nickel. Vous avez lu au bord de votre piscine, vous avez lu la presse irlandaise, allemande, espagnole, néerlandaise, et vous venez nous raconter tout ça. D'abord, l'Irlande, c'est intéressant, on en a parlé dans le début, la première partie de cette émission, le cas Apple. Ce serait intéressant de voir ce qu'on en dit du côté du Irish Times.
Alors en fait non, c'est le Irish Independent et qui produit un papier, disons, extrêmement dur sur la Commission européenne. Hein, parce que, au fond, alors c'est un point de vue, c'est un point de vue pour dire finalement ça va être gagnant-gagnant pour l'Irlande. Au passage, donc, le journaliste égratigne la Commission, il parle d'une incompréhension vindicative du commerce mondial de la part de la Commission, de sa conception archaïque de l'État-nation. Une commission qui, selon donc le Irish Independent, incarne le passé. Et alors, pour le journaliste, eh bien, c'est un deal gagnant-gagnant parce que, et là je vous le cite, c'est quand même marrant, si nous perdons en appel, l'Irlande obtiendra les 13 milliards de remboursement, de quoi éponger notre déficit budgétaire, et puis finalement, nous serons, les grandes entreprises américaines nous considérons encore comme le seul ami en Europe, donc très bien. Et inversement, si en revanche nous gagnons l'appel, nous perdrons bien sûr le remboursement des 13 milliards d'euros, écrit-il, mais nous aurons un énorme crédit auprès des multinationales et des autorités américaines, de quoi finalement changer d'axe. Nous avons l'occasion de remettre à plat la relation entre notre pays et ses entreprises qui vont nous rendre riches. Vous voyez, il y a beaucoup de cynisme et puis finalement ce qu'il appelle de la réelle politique.
Au moment où vous parliez, Eric, je voyais, il était hors champ de caméra, mais j'entendais, je voyais Olivier Bailly qui disait non, le directeur, le chef de cabinet, oui, parce qu'on dit chef de cabinet à la Commission européenne de Pierre Moscovici. Pourquoi vous dites non?
Je dis non à l'argument qui est que si l'Irlande percevait les 13 milliards d'euros d'impôts indus, elle pourrait ainsi faire baisser son déficit. Malheureusement non, ce serait un peu trop facile. Les règles européennes budgétaires n'autorisent pas d'utiliser ces recouvrements pour faire baisser sur une année le déficit.
Vous avez dit 13 Donc, milliards d'euros d'impôts indus.
Oui. Parce que c'est bien ça, de ça dont il s'agit. Donc ça aurait un effet sur leur budget, mais on n'entendrait pas compte dans le calcul du déficit. Donc c'est une mauvaise information de la part du journaliste du Irish Independent.
Independent, hein, pas Irish Times, pardonnez-moi. Pervenche Berès, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, l'Irlande a une stratégie d'accueil des multinationales depuis toujours, hein. Et on a vu à quel point ça a pu déséquilibrer son économie au moment de la crise financière. J'espère que, à l'occasion de cette persévérance de la Commission pour identifier des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sont pas raisonnables pour un pays ayant rattrapé ce niveau de vie et ce niveau de richesse dans l'Union européenne, de se comporter de la sorte. Et je crois que ça serait plutôt dans l'intérêt de l'Irlande. Un peu comme, si vous voulez, Jean-Claude Juncker. Il est devenu président de la Commission au moment où l'affaire LuxLeaks a éclaté. Il aurait pu dire, c'est affreux. Et finalement, il fait face. Il laisse son commissaire en charge de la fiscalité faire le boulot. Je crois que l'Irlande devrait un peu donner, tirer des leçons de ça et se comporter en bon européen, parce que l'Irlande a beaucoup gagné de l'Europe.
Jean-Claude Juncker, il n'est pas comme le président de la République en France, il se soucie moins de sondages, de popularité, etc. Aussi, ça, ça le met un petit peu à l'abri, même s'il est élu par le Parlement européen.
Il n'est pas dans la même
situation,
puisqu'il a été soutenu par une large majorité du Parlement européen.
Vu d'Allemagne, Éric Scholl, popularité justement, quand les Allemands préfèrent Poutine à Merkel.
Et très très étonnant, hein, et ça a fait la une du journal Die Zeit, un sondage en fait qui montre qu'effectivement, bon, on sait que Poutine est très apprécié dans son pays, en tout cas il a des taux de sondage d'opinion favorable qui sont très élevés, 82% dans son pays, mais quand même, en Allemagne, il y a des Allemands qui préfèrent, donc qui font confiance davantage à Poutine qu'à Merkel, et le journal se pose la question, comment est-ce possible? Alors en regardant de plus près les chiffres, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on regarde notamment chez les adeptes de l'Alternative pour l'Allemagne, hein, l'AFD, donc ce parti populiste de droite, mais aussi chez Die Linke, eh bien on trouve entre 30, près de 30% des adeptes de ces partis qui sont prêts à faire plus confiance à Poutine qu'à Merkel. C'est très étonnant, c'est à la fois étonnant et c'est inquiétant, en tout cas, s'interroge Die Zeit.
Qu'est-ce que vous en pensez, Charles de Mercy?
La politique fiction, tout le monde trouve que c'est plus joli à côté ou chez le voisin, donc c'est, je ne sais pas si c'est très pertinent de dire qu'il y a des courants politiques différents et qu'on voit des nouveautés sur la scène politique allemande, ça c'est juste, que c'est inquiétant, c'est aussi juste. Et à côté de ça, il y a un excédent budgétaire, j'ai plus le chiffre exact, vous me le rappelez, 18,5 milliards.
Un petit peu moins, mais c'est dans cet ordre-là.
Non, dans cet ordre-là, et donc une situation économique qui est quand même, qui pour le coup fait envie à plusieurs de ses voisins.
Maya, quand les Allemands préfèrent Poutine à Merkel?
Mais on parle de partis d'extrême de l'AFD quand même. Enfin, c'est de la pure politique fiction. Et je pense qu'il y a d'autres partis d'extrême qui ont aussi une admiration.
Qui a infligé une défaite quand même au parti d'Angela Merkel dans son fief le week-end dernier. Vu des Pays-Bas, diplomatie aux États-Unis, le respect pour l'Union européenne a disparu.
Oui, un très long texte, alors je vais être très rapide, je vais juste vous donner la conclusion de ce texte, c'est un texte très intéressant, écrit en fait, qui est publié donc dans Der Groene Amsterdamer, un site d'information d'Amsterdam, et qui a été écrit par un professeur américain sur l'influence de l'Union européenne qui recule sur la scène internationale. Alors je vous livre juste la conclusion, il explique ce professeur, qui a fait partie d'ailleurs de l'équipe d'Obama en 2008, il explique, au début de la présidence d'Obama, on avait beaucoup de respect pour les propos que tenait l'Europe sur la scène internationale. Ce respect a disparu, la crise actuelle ne fait qu'aggraver la situation car elle montre l'ampleur des divisions en Europe.
Ça c'était avant, Éric Scholl, le coup de matraque des 13 milliards contre Apple ou pas? Parce que là, l'Union européenne s'est quand même fait entendre.
C'était avant.
Ah, c'était avant. Olivier Bailly, les relations avec les États-Unis sont au beau fixe?
Je crois pas du tout à cette idée d'un changement dans le respect des autorités américaines vis-à-vis de l'Europe, parce que je pense que la manière dont les Européens ont géré la crise migratoire, je pense que ça force le respect à Washington. La manière dont nous avons essayé d'avoir des relations diplomatiques et constructives avec la Turquie, je pense que ça impressionne aussi Washington. Et la manière dont certains leaders européens parlent et haussent le ton avec M. Poutine, je pense que ça aussi, ça force le respect à Washington. Donc je ne crois pas du tout à cette analyse.
Et les résultats de la commentaire.
Et effectivement,
il ferait aimer la Commission européenne à Marine Le Pen. Olivier Bailly, chef de cabinet de Pierre Moscovici, ancien porte-parole de la Commission européenne. Vous vous en souvenez sans doute. Merci d'avoir été notre invité. Merci Pervenche Pérez, eurodéputé socialiste, d'avoir été également autour de cette table. Merci Éric Scholl pour votre revue de presse. Merci Maya de la Baume pour vos coulisses de l'Europe. Merci Charles de Marcy pour vos analyses. Toujours pointues, toujours précise. Merci à Alexandre Rougier qui a préparé avec brio cette émission. Merci aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en son et en image. Merci à Hélène Leroux qui nous a également aidé à préparer cette émission. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Toujours le même jour, toujours à la même heure, à la fois en télévision et en radio. D'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.